J'avais à cœur de parler de la foi, de la repentance et du salut. Bon, ça, pour beaucoup, ça sera un rappel, mais je voulais aussi donner quelques réflexions à ce sujet. La repentance, en grec métanoïa, signifie un changement complet de mentalité, accompagné d'un profond regret de ses fautes, conduisant à un changement de conduite. Ce nouveau comportement se traduit par une transformation radicale vis-à-vis de Dieu, de Jésus, de la Bible, du péché et du monde. Au départ, la repentance intervient dans notre salut et par la suite sera d'actualité tout au long de notre vie. Dans Matthieu 4:17, nous lisons « Jésus aborde ce sujet lors de sa première prédication au tout début de son ministère. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » On lit aussi dans Actes 17:30 « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Donc c'est Jésus. On voit qu'aux yeux de Dieu, la repentance est une nécessité absolue. Elle est indispensable à cause de notre état de perdition et des exigences de la justice divine. La repentance peut se définir comme la prise de conscience du désordre et du dérèglement moral dans lesquels nous nous trouvons par nature. L'homme qui se repent éprouve une horreur sincère du mal qu'il a pu faire, pas forcément d'un péché particulièrement grave, mais pour l'ensemble d'une vie dans laquelle Dieu n'a pas eu sa place. On en a une illustration dans le récit du fils prodigue. « Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Foi et repentance. La repentance est liée à la foi et donc au salut. Il est vrai que la foi est le canal par lequel on reçoit le salut. Mais une foi sans repentance n'est pas la vraie foi biblique. On a l'exemple des chefs religieux du temps de Jésus qui ne pouvaient croire à l'Évangile parce qu'ils refusaient de se repentir. Jésus leur fit le sévère reproche suivant « Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, c'est-à-dire au message de repentance de Jean-Baptiste. Et nous qui avons vu cela, et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » C'est dans Matthieu 21:32. Vraie et fausse repentance. La conviction de péché n'est pas la repentance. La conviction de péché est nécessaire à la repentance, mais un pécheur peut être profondément convaincu de son péché et pourtant ne pas se repentir. On a un exemple dans Actes 24:25. Le gouverneur Félix était dans ce cas-là quand il entendit l'apôtre Paul prêcher sur la justice, la tempérance et le jugement à venir. En effet, il était profondément touché, bouleversé et intéressé par le message de l'Évangile, mais rien n'a changé par la suite dans sa vie. Une fausse repentance craint les conséquences du péché, tandis que la vraie craint le péché lui-même. Le remords n'est pas la repentance. Judas eut des remords, il ressentit la douleur de sa propre culpabilité, mais il ne se repentit pas. Cependant, s'il était revenu vers Jésus en se jetant à ses pieds pour lui demander pardon, il aurait été pardonné. Tous les remords par rapport à une mauvaise action ne sauraient plaire à Dieu. Seul un changement de conduite peut satisfaire son cœur. La haine du péché n'est pas la repentance. La repentance inclut naturellement la haine du péché, mais il est vrai qu'il est possible d'avoir en horreur le péché sans pour autant se repentir. On peut prendre comme exemple des marins qui, au cours d'une tempête, jetteraient leur cargaison par-dessus bord pour alléger le bateau, mais qui désireraient la retrouver aussitôt la tempête apaisée. N'abandonner qu'un certain péché n'est pas non plus la repentance. Lorsqu'il y a plusieurs péchés, n'en abandonner qu'un revient à couper la branche d'un arbre alors que c'est l'arbre entier qu'il faudrait abattre. Imaginons un bateau en mer qui a plusieurs fuites. Si je n'en colmate qu'une seule, le bateau coulera malgré tout. Ou encore un homme qui aurait deux blessures mortelles, s'il n'en guérit qu'une, celle qu'il a négligée le perdra. La repentance n'est pas non plus se mépriser soi-même. Il est possible de ne pas s'aimer à cause de notre péché, mais l'autocondamnation ouvre encore plus largement les blessures de notre culpabilité et de notre désespoir. Le mépris ou le rejet de soi-même peut mener à l'autodestruction. Cette situation est grave car nous avons été créés à l'image de Dieu. La repentance n'est pas la condamnation de soi-même. Dieu aime le péché, mais il aime le pécheur. Une affliction passagère n'est pas la repentance. Une telle repentance est semblable à la rosée du matin, vite dissipée, elle laisse peu ou pas de traces. Les anciens Israélites manifestaient souvent une telle affliction. Ils avouaient bien leurs fautes, s'en affligeaient, promettaient de s'amender, mais on les retrouvait aussi mauvais et parfois même pires. Pleurer et ne rien faire pour changer n'est pas la repentance. Celle-ci est un engagement à vivre une vie nouvelle et meilleure. Les regrets veulent changer le passé, mais la repentance décide de changer le futur. La foi. La foi biblique, c'est prendre Dieu au mot, c'est le croire sur parole. L'apôtre Pierre avait cette foi vivante et agissante. Il a honoré le Seigneur en le prenant au mot lorsqu'il lui a dit, après une nuit de pêche infructueuse, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Et Pierre lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » Luc 5, 5 et 6. La parole poursuit, « L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. La foi honore Dieu et Dieu honore la foi. » Et pourtant, Pierre, qui était un professionnel de la pêche, savait que l'ordre de Jésus de jeter le filet en plein jour était contraire aux bonnes pratiques des pêcheurs. En effet, la pêche se pratiquait de préférence la nuit afin de ne pas être repéré par les poissons. Confusion au sujet de la foi. Ne pas confondre croyance et foi. On utilise souvent le même mot pour exprimer l'une et l'autre. Mais la différence est grande entre la croyance de nature purement intellectuelle et la foi de nature spirituelle. La croyance est l'adhésion de la pensée aux faits historiques et surnaturels rapportés par la Bible. Même les démons ont cette sorte de croyance, mais ils tremblent et ne sont pas sauvés. On a également l'exemple de Simon le magicien, dans Acte 8. Il crut et fut baptisé, mais sa foi n'était pas celle qui sauve. La foi véritable est une confiance totale, une ferme assurance dans les promesses du Seigneur. On lit dans Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme appropriation de la vie de Jésus et de ses promesses. Ne pas confondre sentiment et foi. Quelle est la place des sentiments dans la foi qui sauve? N'ont-ils aucune place? Certes, ils en ont une, mais ce n'est pas eux qui nous sauvent. Quels que soient les sentiments que l'on puisse éprouver, ils ne sont que la conséquence de la foi, mais ils n'ont en eux-mêmes, aucune vertu pour sauver. La foi est essentielle pour recevoir le salut. La manière la plus sûre d'être agréable à Dieu, c'est de le prendre au mot. La Bible déclare que la foi est absolument essentielle, car nous ne pouvons obtenir le salut que par la foi. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Sommes-nous vraiment sauvés par la foi? Non, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. La foi est simplement le canal par lequel nous recevons la grâce de Dieu. Dieu justifie par la foi et non par les œuvres. Comment un homme peut-il être juste devant Dieu? La réponse se trouve en Galates 2, 16. Sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi, œuvres religieuses méritoires, que l'homme est justifié, déclaré juste, mais par la foi en Jésus-Christ. Justifié en grec signifie être déclaré juste devant Dieu. Paul l'emprunte au vocabulaire juridique. Être justifié, c'est être acquitté par Dieu grâce au sacrifice parfait de Christ, de toute accusation contre une personne à cause de ses péchés. C'est exactement le contraire d'une condamnation qui la déclare coupable. Justifier, c'est aussi être plus qu'acquitté. C'est être accepté dans la présence de Dieu. C'est également être libéré de toute responsabilité à l'égard de la violation de la loi, parce que Dieu lui-même en Jésus en a subi la peine. La justification et le pardon ne sont pas synonymes. Le pardon est négatif, car c'est la rémission de la peine ou de la dette. La justification est positive, c'est l'octroi d'un nouveau statut, le pécheur étant rétabli dans la faveur de la communion avec Dieu. La foi qui sauve est celle du cœur. On lit dans Romains 10, 10, 9 et 10, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Dans la parole de Dieu, le cœur représente les trois dimensions de la personnalité humaine, la pensée, les sentiments et la volonté. La foi du cœur ne se limite pas à une expérience uniquement émotionnelle. Elle impacte l'être tout entier. Jésus confirme cette vérité dans le premier commandement divin. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. La foi qui sauve est un engagement de tout son être vis-à-vis de son Sauveur. La foi biblique implique une connaissance de ce que Dieu a fait. C'est pourquoi il est important de lire la Bible afin de connaître précisément ce qu'elle enseigne. On doit d'abord connaître la vérité, car c'est elle qui nous affranchit de l'ignorance, des erreurs et du mensonge. Cette connaissance de ce que Dieu dit est le premier élément constitutif de la foi, absolument nécessaire mais insuffisante. La foi véritable inclut également les sentiments. Non seulement je dois connaître la vérité, mais je dois aussi l'aimer. Cette vérité m'éclaire et me libère. La foi véritable se concrétise par un acte de volonté. Je connais la vérité, j'aime la vérité et je décide d'obéir à la vérité. Sens originel des termes foi et croire. Signification biblique du mot foi. Dans le Nouveau Testament grec, le nom foi, pistis, et le verbe croire, pisteo, appartiennent à la même famille. Ils y apparaissent plus de 240 fois. Le mot foi en grec est beaucoup plus qu'un simple acquiescement mental ou une connaissance intellectuelle de certaines vérités bibliques. La foi exprime plutôt une entière confiance, une attitude d'obéissance, une conviction inébranlable. Ce même mot exprime aussi une fidélité de la personne à l'auteur du salut, c'est-à-dire un engagement, une consécration, la poussant à rechercher une communion intime avec Dieu par Jésus-Christ. Signification biblique du mot croire. Le verbe croire apparaît 98 fois dans l'évangile de Jean. Un verbe exprime une action et doit toujours avoir un objet. Dans le Nouveau Testament, croire concerne toujours la foi en Dieu et en Jésus-Christ. C'est pourquoi croire signifie avoir une confiance absolue, s'abandonner entièrement, obéir volontairement. La foi, en tant que conscience et fidélité, repose sur le fait que Dieu est fidèle et ne ment pas. Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Abraham demeure comme un modèle de foi en Dieu. Par la foi, Abraham obéit à Dieu et se confia dans ses promesses. Sa foi conduisit sa vie entière. Il devint ainsi le père de tous les croyants. Croire signifie souvent recevoir le message de Jésus et l'accepter comme fils de Dieu. Selon la Bible, nous ne croyons vraiment que lorsque nous obéissons. Croire sous-entend toujours une action continue et persévérante. Pour l'apôtre Jean, la foi qui sauve ne consiste pas uniquement à recevoir Christ par un acte initial bien précis dans le passé, mais également à continuer de croire, car le verbe croire est au présent continu dans le texte grec. Il décrit une foi obéissante et en constante communion avec le Seigneur. Selon la construction grammaticale des textes de Jean 1, 3, la foi qui sauve indique un engagement qui pousse le croyant à s'attacher continuellement au Sauveur de tout son cœur. La foi n'est pas seulement un événement passé, mais c'est un état présent et constant. On lit donc 2 Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. En grec, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous ne sommes plus devant Dieu une personne réformée, améliorée ou embellie, réparée. De ce que nous étions autrefois, nous sommes absolument une nouvelle création. En Christ, nous avons une nouvelle identité. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, dans Galates 3. L'apôtre Jean ne parle jamais des croyants comme fils, mais toujours comme enfants. Il réserve le qualificatif de fils unique, uniquement pour le Seigneur. En Christ, nous avons besoin d'une nouvelle nourriture pour notre âme. L'apôtre Pierre nous exhorte à désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, afin que par lui nous croissions pour le salut, si nous avons goûté que le Seigneur est bon, dans 1 Pierre 2. La Bible ne contient pas seulement la parole de Dieu, elle est la parole de Dieu. Veillons à ne pas négliger de nous nourrir des enseignements de la Bible. Nous cesserions de croître et de jouir des nombreuses grâces que Dieu met à notre disposition. En Jean 14, 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Et enfin, en Christ, nous avons une nouvelle destinée. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. La destinée ultime de l'homme sur cette terre n'est pas de vivre pour lui, pour lui-même, mais pour Dieu qui l'a créé et racheté. Il est appelé pour son propre bonheur à glorifier Dieu et à vivre en harmonie avec le plan divin. Amen.